France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a marchand d'art et marchand d'art. À la suite de Paul Durand-Ruel et Ambroise Vollard, la figure de celui dont nous allons entendre le portrait qu'en faisait en 1967 Francis Crémieux domine le XXe siècle et contredit tous les a priori qui entourent cette activité. Très jeune, par amour de l'art, Daniel-Henri Canveller sut que sa vocation était de devenir un passeur, un intermédiaire entre les créateurs et le public. Très jeune, il fut le découvreur, le prosélyte du talent d'artiste dont il saisit l'importance avant la plupart. Des peintres inconnus qui se vendaient mal ou pas, qui ne valaient rien ou valaient très peu. Il s'appelait Vlaminck, Derain, Vandongen, Léger, Braque ou, au fond de sa solitude et de sa misère, Pablo Picasso, auquel il acheta les Demoiselles d'Avignon, dont tout le monde s'horrifiait. Il fut aussi l'éditeur d'Apollinaire, celui de jeunes auteurs qui s'appelaient Malraux, Radiguet, Artaud, Salacrou, Zara, Léris, Desnos, Bataille. C'était dans « Un homme, une œuvre », Daniel-Henri Canveller racontait ce qu'avaient été ses débuts, son métier, ses amitiés au cœur du monde artistique dont Paris était au début du XXe siècle, la capitale. Un homme, une œuvre, Daniel-Henri Canveller, une émission diffusée la première fois, le 20 mai 1967, sur France Culture.
Un homme, une œuvre. Aujourd'hui, Daniel-Henri Canveller, par Francis Crémieux. Avec la participation de messieurs Georges Besson, André Masson, Jean Hugues, Armand Salacroute de l'Académie Goncourt et Daniel-Henri Canveller. Réalisation Claude Mourtet.
Monsieur Daniel-Henri Canveller, né le 25 juin 1884 à Mannheim, en Allemagne, exerce depuis 60 ans à Paris la profession de marchand de tableaux. On peut le trouver tous les jours, sauf le dimanche et le lundi, dans le grand bureau qu'il partage avec sa belle-sœur Louise Léris dans sa galerie de la rue de Monceau. C'est un homme simple, abordable, travailleur, modeste. Ses portraits, peints ou dessinés par Picasso, nous le montrent jeune, ténébreux, la chevelure épaisse et noire, ovale de visage, trapu de corps, solide comme ces montagnards qui ne glissent ni dans les éboulis de l'été, ni sur les verglas de l'hiver. Il n'y a plus trace aujourd'hui de cheveux noirs. La calvitie de Canveller accentue son côté moine laïque et son visage, comme la peau de son crâne, sont tannés par le soleil des voyages ou par la pluie de l'Île-de-France. Il est LE marchand de tableaux du XXe siècle, ce qui ne signifie pas qu'il vend toute la peinture du XXe siècle. Si, comme il aime à le rappeler, les grands peintres font les grands marchands, alors il est le plus grand marchand du monde parce que, au cours de sa longue marche, il a réuni autour de lui les peintres dignes d'être considérés comme aussi grands que les Rubens, les Tintoret, les Velasquez et les Goya. Il existe des lois écrites et des lois non écrites. L'œuvre de Canveller est comme ces lois. Nombreuses préfaces, présentations d'expositions, articles réunis dans ses confessions esthétiques et un magistral ouvrage sur Juan Gris, voilà l'œuvre publiée. Tout le reste est non écrit. Au fait, quelle est l'œuvre d'un accoucheur? Il n'est pas le père de l'enfant qui naît, mais sans lui, la mère et l'enfant se porteraient-ils aussi bien? Le critique d'art Georges Besson, le peintre André Masson, le dramaturge Armand Salacrou, le jeune éditeur libraire marchand de tableaux Jean Hugues aideront ce soir à mieux connaître M. Daniel-Henri Canveller. Les archives de notre radio nous livreront quelques fragments de ses entretiens qui furent diffusés il y a 6 ans, au cours desquels il répondit à plusieurs de nos questions sur sa jeunesse et son métier. Je dirais seulement que Canveller a été élevé à Mannheim, et à Stuttgart qu'il était un bon élève, qu'il aimait beaucoup la musique, que ses parents avaient des tableaux, qu'il voulait, je crois, vers 15 ou 16 ans, devenir chef d'orchestre, mais que ses parents, lorsqu'il eut terminé ses études, ses parents qui étaient des remisiers, des financiers, qui avaient de la famille en Angleterre notamment, lui ont suggéré d'apprendre le métier de la finance et l'ont envoyé successivement à Paris chez un agent de change, puis à Londres chez un oncle qui avait été l'un des initiateurs des grosses affaires d'or et de diamants en Afrique du Sud pour qu'il apprenne leur métier. À Paris, il séjourna de 1902 à 1905. À Londres, il séjourna de 1905-6 à 1907. Et dans ces deux capitales, il passa le plus clair de son temps à visiter les musées. Il passait 3 heures par jour au Louvre au lieu d'aller à la Bourse, et il passait 3 heures par jour à la National Gallery et au British Museum au lieu d'aller faire ce qu'il avait à faire. Non pas qu'il ait été tricheur, il n'était pas payé, il était pensionné, et c'est là qu'il a appris le plus clair de ce qu'il savait de la peinture lorsqu'il a atteint l'âge de 21 ans, 22 ans. Et décidément, au moment même où il fallait choisir, il y a eu, je crois, son premier et son dernier conflit avec sa famille. Il nous le raconte.
Mes oncles, un beau jour, ont eu l'idée qu'il fallait maintenant que je connaisse leurs affaires en Afrique du Sud. Mon oncle Sigmund avait un bureau à Johannesburg, donc il fallait que j'aille là-bas. J'ai demandé à leur parler sérieusement et je leur ai dit, voilà, ce que je fais ici, ce que j'ai fait auparavant, je ne ferai jamais rien de bon là-dedans. Ce que je voudrais être, c'est marchand de tableaux. Comme ils étaient des gens sérieux, ils me dirent, voilà, tout ça c'est très bien, mais il faut tout de même qu'on voit un peu plus clair là-dedans. Tu vas aller voir un de nos amis, Vertemer. Il va te faire subir une sorte d'examen. Ce brave monsieur Vertemer, qui était certainement un marchand excellent, qui avait, je suppose, de bons tableaux dans la ligne qui était la sienne, était assez embarrassé en face de moi. Il me posait des questions telles que celle-ci. À la National Gallery, qu'est-ce que vous aimez ? Je savais très bien ce qu'il aurait voulu que je réponde. Il aurait voulu que je dise « j'aime les grands portraitistes anglais du 18e ». Il aurait accepté encore que je dise Rubens, par exemple, ou même Velázquez. Mais je ne sais quel démon m'a poussé à lui dire des noms dont je savais d'avance qu'il lui déplairait. En tout cas, qu'il ne les estimerait pas comme moi. Je lui dis donc « ce que j'aime, c'est le Gréco ». Le Gréco, à ce moment-là, commençait à sortir de l'obscurité de plusieurs siècles pour devenir le grand nom qu'il est redevenu maintenant. Il me paraissait assez étonné. Et encore, je disais, bien, et Vermeer de Delft. Je disais, bien sûr, mais... Enfin, cet examen n'était pas du tout, je crois, ce qu'il aurait voulu, lui. Mais ça devait être un homme gentil. Et alors, évidemment, il passait au nœud de la question en me demandant « Et à Paris, qu'est-ce que vous comptez vendre ?» Il faut vous imaginer qu'à ce moment-là, à Londres, on ignorait entièrement la peinture française d'alors. Les impressionnistes étaient à peine connus. Il y avait eu une vague exposition dans une petite galerie qui s'appelait la New Gallery, où on avait montré toutefois les impressionnistes et quelques œuvres de ce que nous appelons aujourd'hui les nabis. Je me suis dit, si je lui parle des peintres auxquels je pense vraiment, il ne les connaîtra pas. Peut-être connaîtra-t-il Vuillard et Bonnard. Et ce sont donc ça, les noms qui me sont venus. Il disait, je ne connais pas. Mais enfin, il a dû tout de même faire un rapport relativement favorable à mes oncles. Et eux, je dois le dire et le redire, devaient être des gens tout de même assez ouverts, puisqu'ils m'ont fait la proposition suivante. Tu vas aller à Paris. Tu vas ouvrir une galerie, puisque c'est ça que tu veux faire. Nous te donnons 1000 livres, c'est-à-dire 25 000 francs d'alors, 25 000 francs or. Et un an. Si après un an, cette galerie a pris pied, c'est-à-dire si tu peux la faire vivre, vivre toi-même et ta femme, et faire, enfin, tes affaires, tu peux continuer. Sinon, tu reviens dans notre métier.
Je crois que ce monsieur Wertheimer était le type même du marchand de tableaux que Canveller ne voulait pas être.
Il était le type du marchand de tableaux qui fournissait à ses acheteurs la marchandise qu'il désirait. Moi, je voulais être un marchand de tableaux qui offrait à l'admiration publique, si je puis dire, des peintres que le public ne connaissait absolument pas et auxquels il fallait frayer une voie.
Cette définition par Daniel-Henri Canveller est, je crois, la plus noble et la plus juste que l'on puisse donner d'un métier qui n'a rien à voir avec l'achat et la revente de toiles peintes, avec l'achat et la revente de matériel, entre guillemets, d'occasion. Canveller, c'est un pêcheur d'hommes, c'est un découvreur, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, un accoucheur. Et là commence son œuvre. S'il ne crée pas lui-même, il aide les créateurs à vivre et à travailler. Et c'est dans sa recherche des vrais peintres qu'il ne se trompera pas. Donc, il va s'installer à Paris, ouvrir une petite boutique rue Vignon qu'il sous-loue, qu'il rachète à un tailleur polonais, et puis il va partir dans les rues, dans les salons, dans les expositions. Il n'y avait pas beaucoup de galeries à l'époque, mais il ne connaissait personne à Paris. Qui connaissiez-vous, cher Canveller ?
Je ne connaissais personne. Je ne connaissais à Paris que les gens de la Bourse que j'avais fréquentés pendant mon travail à la Bourse. Je connaissais un ou deux marchands d'estampes chez qui j'achetais des estampes. C'est tout. Je ne connaissais ni marchand, ni amateur, ni peintre, ni critique.
Alors ?
Eh bien, c'est bien simple. J'avais toujours visité chaque année le Salon des Indépendants, qui était vraiment alors la pépinière de l'art moderne, où tout le monde, à la seule exception du Picasso, a exposé. J'allais donc le 21 mars aux Indépendants, ça ouvrait toujours à cette époque-là, et là, je me suis mis à acheter quelques tableaux. Des tableaux de Dorin et de Vlaminck. C'était la pleine époque fauve. Après m'être rendu au secrétariat et avoir demandé le prix des tableaux, dans ma naïveté, j'ai accepté immédiatement le prix demandé. J'ai su plus tard qu'évidemment, non seulement tout le monde marchandait, mais qu'encore un marchand, un futur marchand même, avait droit à une sensible réduction. Je n'en savais rien. J'achetais les tableaux exactement au prix demandé. Après la fermeture au mois d'avril, et Dorin et Vlaminck vinrent dans mon petit logement, la rue Théophile Gautier, pour m'apporter les tableaux. C'est ainsi que j'ai rencontré Dorin et Vlaminck.
Et vous leur avez dit que vous aviez décidé de faire le métier de marchand de tableaux.
Bien entendu, je les ai mis au courant immédiatement et je leur ai dit que je désirais acheter d'autres tableaux d'eux. Ça s'est même arrangé, en somme, très vite. Il y a une chose très curieuse que je n'ai su que beaucoup plus tard. Vlaminck a publié, il y a très peu de temps, les lettres que Dorin lui a adressées de 1904 ans environ jusqu'en 1915. Or, il y a quelques notes de Vlaminck qui accompagnent ces lettres. Et Vlaminck dit là qu'il avait mis alors Vollard au courant de ce que je voulais faire. Je lui avais dit immédiatement que je désirais acheter toute sa production. Or, Vollard lui aurait dit « Acceptez donc, ça répandra votre peinture », qui est une chose très curieuse et montre bien la psychologie très spéciale de Vollard. Je me vois, moi, un peintre qui m'aurait dit ça, mais je lui aurais sauté à la figure. J'aurais dit, mais vous êtes fou, mon ami, et je vous achète là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'un petit jeune homme qui arrive à Paris, n'est-ce pas? Or, Vlaminck assure que Vollard lui aurait dit accepter. Et Vlaminck conclut, c'est ainsi qu'un jeune Allemand de 25 ans est arrivé à posséder les tableaux des plus grands peintres français d'alors. Il vieillissait d'ailleurs de 3 ans, je n'avais que 22 ans.
Mais les plus grands peintres français d'alors étaient tout simplement inconnus avant d'être vilipendés. Van Dongen et Braque viennent très vite rejoindre au mur de la petite galerie de la rue Vignon Derain et Vlaminck, qui eux aussi avaient exposé dans la salle des Fauves aux Indépendants. À cette époque, Kahnweiler signait des contrats. Le peintre s'engageait à lui vendre toute sa production et lui, naturellement, s'engageait à l'acheter. Les galeries étaient très peu nombreuses à Paris, une dizaine. Les clients étaient eux aussi très peu nombreux, mais la plupart du temps aisés, fidèles et très souvent étrangers. Donc, vous commencez lentement, tranquillement, vous avez toujours votre petit capital de 1000 livres or, un peu entamé par les premières mensualités que vous versiez à ces peintres, et notamment à Derain et Vlaminck, mais il n'y a pas encore, sur votre horizon, Picasso. Picasso, vous ne le connaissez pas. Je voudrais que vous me racontiez quand, comment, où vous avez fait la connaissance de Picasso.
Un beau jour, je vis entrer un jeune homme qui me paraissait assez remarquable. Il avait des cheveux là, noirs de corbeau. Il était petit, mal habillé, avec des souliers poussiéreux et pantalons de mauvais état, très, très, très pauvrement habillé, et avec des yeux qui me paraissaient magnifiques. Ce jeune homme, sans rien dire, se mit à regarder les tableaux, faisant le tour de la petite boutique qui avait environ 4 mètres sur 4, très petite, et s'en fut. Le lendemain, je le vis revenir en fiacre, avec un monsieur qui me paraissait à moi, un monsieur d'un certain âge, car j'étais très jeune, mais qui ne devait pas avoir plus de 45 ans, je suppose alors, un monsieur barbu, plutôt gros, et les deux, également sans rien dire, firent le tour de la galerie et s'allèrent. L'air. Or, j'avais entendu parler à cette époque-là, et notamment par quelqu'un dont j'avais fait la connaissance aussi, Wilhelm Uhde, l'écrivain et historien d'art allemand, d'un étrange tableau que Picasso était en train de peindre. Un tableau, disait-il, il a l'air, comment dirais-je, assyrien, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de tout à fait étrange. C'était une chose que je voulais voir. Je ne connaissais pas Picasso, mais je connaissais son nom. J'avais vu, notamment, beaucoup de dessins de lui à la devanture d'un marchand de tableaux d'alors, Clovis Sagot, un petit marchand de tableaux de la rue Lafitte. Donc, un beau jour, je me mis en route, je savais l'adresse, 13 rue Ravignan. Il fallait demander à la maison d'à côté, à la concierge, car la maison elle-même n'en avait pas, et elle me dit que c'était au premier étage en dessous. Car cette étrange bâtisse qui est collée au flanc de Montmartre, à son entrée, au dernier étage en haut, et on descend aux autres étages. J'arrivais donc devant cette porte, qui était couvert de gribouillages d'amis qui donnaient des rendez-vous, enfin, Manolo chez Azon, Totot est venu, Derain viendra cet après-midi. Je frappais à la porte. Un jeune homme, les jambes nues, en chemise, la poitrine débraillée, m'ouvrit, me prit par la main et me fit entrer. Donc, j'entrais dans cette étrange pièce qui servait d'atelier à Picasso. Personne ne pourra jamais se faire idée de ce que c'est que la pauvreté, la misère lamentable qui n'aura pas connu ses ateliers de la rue Ravignan. Celui de Gris était même peut-être encore pire que celui de Picasso. Le papier de tenture pendé en lambeaux des murs en planches. Il y avait une poussière sur toutes les choses, sur les toiles roulées, sur un divan défoncé. Il y avait à côté du poêle une sorte de montagne de lave agglomérée qui était les cendres. C'était épouvantable. C'est là-dedans qu'il vivait avec une très belle femme, Fernande, et un très gros chien qui s'appelait Frica. Il y avait aussi là ce grand tableau dont Oud m'avait parlé. Ce grand tableau, que depuis on appelait les Demoiselles d'Avignon et qui constitue le point de départ du cubisme. Ce que je voudrais vous faire sentir immédiatement, c'est vraiment l'héroïsme incroyable d'un homme comme Picasso, dont la solitude morale à cette époque-là était quelque chose d'effrayant, car aucun de ses amis ne l'avait suivi. Le tableau qu'il avait peint là paraissait à tous quelque chose de fou ou de monstrueux. Braque, qui avait fait la connaissance de Picasso par Apollinaire, avait déclaré qu'il lui semblait que c'était comme si quelqu'un buvait du pétrole pour cracher du feu. Et Derain m'a dit à moi-même qu'on trouverait un jour Picasso pendu derrière son grand tableau, tellement cette entreprise paraissait désespérée. Tous ceux qui connaissent le tableau maintenant le voient dans l'état exactement auquel il était alors, car Picasso le considérait comme non terminé, mais il restait exactement comme il était alors, c'est-à-dire avec les deux moitiés assez différentes. La moitié de gauche se rattachant encore à ces figures de l'époque rose, mais taillées à coups de hache, comme on disait alors, c'est modelé beaucoup plus fortement, tandis que l'autre côté, très coloré, est de toute évidence entièrement nouvelle et fait vraiment le point de départ d'un art nouveau.
Est-ce que c'est de cette première rencontre que date votre contrat non écrit avec lui?
Oh non, c'est beaucoup plus tard. Picasso était, et d'ailleurs c'est, un homme beaucoup trop méfiant pour se lier immédiatement avec un petit jeune homme arrivé dont il savait tout et dont il ne pouvait évidemment pas savoir si son entreprise, qui pouvait paraître folle, allait durer. Non, j'ai acheté immédiatement des tableaux de Picasso et il n'y avait pas de concurrence, si j'ose dire. Il n'y avait pas besoin de faire des contrats ni rien du tout, comme personne d'autre n'en achetait. J'ai donc acheté des choses et j'ai continué. Et ça n'est que quelques années plus tard que nous sommes vraiment liés par un contrat à telles enseignes, d'ailleurs, que voilà, entre-temps, a encore acheté quelques tableaux en 1909 et même en 1910.
Mais alors,
très peu d'ailleurs.
L'état de pauvreté dans lequel était Picasso a, j'espère, changé, puisque vous lui achetiez des toiles.
Et n'allons pas si fort. Picasso m'a dit bien plus tard, très justement, pour que des tableaux se vendent cher, il faut qu'ils aient été vendus très bon marché au début. Or, je vendais les tableaux de Picasso, d'ailleurs ceux des autres aussi, très bon marché, et je les payais donc très bon marché également. C'est-à-dire que, enfin, ça n'était plus la misère, mais enfin, ça n'était pas non plus la prospérité.
Mais c'était l'amitié. C'était l'amitié, c'était le travail, c'était l'euphorie, c'était deux bateaux que Canveller possédait avec Vlaminck et qui les transportait sur la Seine en petite croisière. C'était les séances de cirque avec Picasso et c'était surtout, si j'ose dire, la volonté de ne pas exposer dans les salons. Car les cubistes et leurs amis, qui avaient un contrat avec Canveller, avaient abandonné la fréquentation des grands salons, salons d'automne, salons des indépendants, je dis bien les cubistes qui avaient un contrat avec Canveller, car d'autres, ceux que l'on est convenu d'appeler les cubistes mineurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni Picasso ni Braque, exposaient, et l'on verra un peu plus tard que ces expositions donnaient lieu à quelques scandales. Défense de parler aux pilotes, disait Picasso, pas de discussion théorique, pas d'écrit, pas de manifeste, contrairement à ce que l'on peut croire, mais néanmoins, de 1908 à 1912, le cubisme se consolide dans le travail et dans le silence. C'est du cubisme que je voudrais vous demander de me parler maintenant, monsieur Canveller, parce que on ne peut pas parler que des peintres. Il faut aussi parler de cette problématique de la peinture qui a été entièrement renouvelée par les cubistes. Alors, je vous laisse le micro.
En premier lieu, il faut tenir compte d'un phénomène constant, de la révolte des fils contre les pères. Il est de toute évidence que les cubistes, en premier lieu, se révoltaient contre l'impressionnisme. Ils se révoltaient contre ces aspects momentané du monde extérieur contre ces aspects fugitifs. D'autre part, il est évident également qu'il y avait néanmoins un ancêtre qu'ils reconnaissaient, qu'ils aimaient, c'était Cézanne. Cézanne avait été imité énormément dans les années après 1900, mais absolument pas compris. On peignait les sujets cézanniens, comme on disait à cette époque-là, l'assiette avec les trois pommes sur la table de guingois, mais on n'avait absolument pas compris à quoi tendait la peinture de Cézanne. Picasso m'a dit, il n'y a pas très longtemps, dans une conversation à laquelle assistait également Pignon, « Pignon, qui est peintre, ne peut pas le savoir, mais vous, Canveller, vous le savez, ce que Cézanne a été pour nous alors. Cézanne était pour nous comme une mère qui protège ses enfants. » Qu'avaient appris ou qu'avaient vu les cubistes chez Cézanne? Ils avaient vu en premier lieu la composition, ou comme nous disions plutôt, la construction du tableau. L'idée que le tableau n'est pas, comme disaient les impressionnistes, une tranche de nature servie avec art ou une fenêtre ouverte enfin sur le monde extérieur, mais qu'elle est en premier lieu une surface plane, d'une certaine dimension, sur laquelle le peintre veut, en effet, nous rendre ses sensations. Mais le fait même d'introduire ces sensations sur une surface plane rectangulaire crée un certain rythme. On s'est demandé ce que c'était vraiment que la peinture. Je viens de vous dire que les impressionnistes avaient aimé les aspects fugitifs. Ils avaient peint, en somme, ce qu'ils voyaient d'un seul clin d'œil. Ils étaient allés, si l'on peut dire, au bout de ce que ça peut être l'illusionnisme, montrer autant que faire se peut ce que l'on voit de façon à ce que le spectateur lise exactement ce que le peintre avait ressenti ou vu. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, les impressionnistes auraient peint une maison éloignée dont on voyait le toit bleu, simplement comme une tache bleue. C'est contre cela que se sont élevés les cubistes d'abord. Ils se sont dit, mais cette maison, c'est une construction cubique, orientée d'une certaine façon. Il convient donc de dire tout cela aux spectateurs. Ils ont donc tenté immédiatement de donner des objets, une image plus détaillée, plus précise, plus vraie que ce qui se peut se voir en un seul clin d'œil. Autrement dit, ils ont peint en partie ce que l'on sait de l'objet déjà à cette époque-là et non plus ce que l'on voit. Quand je dis les cubistes, évidemment, il faut comprendre toujours que c'est Picasso dans Les Demoiselles d'Avignon qui a commencé. Je vous l'ai dit, la moitié droite des Demoiselles d'Avignon est une première tentative absolument héroïque de résoudre tous ces problèmes à la fois. Car, en somme, on voulait non pas seulement donner la forme exacte des objets, mais aussi leur couleur exacte. Les impressionnistes avaient donné la couleur telle qu'elle nous apparaît, c'est-à-dire décolorée par la couche d'air, changée par le soleil, par la pénombre, par tout ce que vous voudrez. Le cubiste voulait donner ce qu'on a appelé quelquefois le ton local, c'est-à-dire la vraie couleur de l'objet. Il voulait en donner la vraie forme aussi. Mais en même temps, il voulait que ce qu'ils avaient à dire soit montré sur des toiles rectangulaires, ou même quelquefois ovales d'ailleurs, sans que l'unité de cette structure soit brisée. Picasso a dit à cette époque-là même, bien sûr, quand je veux faire une tasse, je montrerai donc qu'elle est ronde. Mais il se peut que le rythme général du tableau, que la construction m'oblige à montrer ce rond comme un carré. Et c'est de là que partent évidemment ce que les gens ont appelé des déformations. Il ne faut pas oublier quelque chose qui est absolument primordial, à mon avis, pour la compréhension du cubisme et de ce qui, pour moi, est vraiment l'art moderne. Le fait que la peinture est une écriture. La peinture est une écriture qui crée des signes. Une femme sur une toile n'est pas une femme. Quand vous écrivez sur une feuille de papier F-E, 2-M-E, eh bien, la personne qui sait le français et qui sait lire, lira non seulement le mot « femme », mais elle verra, pour ainsi dire, une femme. La même chose pour la peinture. Il n'y a aucune différence. La peinture, au fond, n'a jamais été un miroir du monde extérieur, n'a jamais été non plus semblable à la photographie, mais elle a été une création de signes qui a toujours été lue après un certain apprentissage toutefois. Or, les cubistes, en effet, ont créé des signes incontestablement nouveaux. Et c'est ce qui a fait la difficulté de la lecture de leurs tableaux pendant si longtemps.
Le 3 décembre 1912, M. Jules-Louis Breton interpellait au cours de la première séance de la Chambre des députés M. le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, lui reprochant d'avoir ouvert les palais nationaux à l'ordure. L'ordure, c'était le cubisme.
Je me garderai bien, messieurs, dans l'état actuel de la discussion du budget, de m'étendre longuement sur une question qui, je m'empresse de le reconnaître, ne présente aucun caractère budgétaire. Je me bornerai donc à demander à monsieur le sous-secrétaire d'État quelles mesures il compte prendre pour éviter le renouvellement du scandale artistique auquel a donné lieu le dernier salon d'automne. Depuis quelques années, sous prétexte de rénover l'art, de moderniser ses procédés, de créer des formes nouvelles, des formules inédites, certains exploiteurs de la crédulité publique se sont livrés aux plus folles surenchères d'extravagance et d'excentricité. Je ne songe nullement à leur en contester le triste droit, mais je ne puis admettre que notre administration des Beaux-Arts se prête à ces plaisanteries de très mauvais goût et livre gracieusement nos palais nationaux pour des manifestations qui risquent de compromettre notre merveilleux patrimoine artistique.
Très bien, très bien, bravo !
Et cela, d'autant plus que ce sont pour la plupart des étrangers qui viennent ainsi chez nous, dans nos palais nationaux, jeter consciemment ou inconsciemment le discrédit sur l'art français. Il est en effet, messieurs, absolument inadmissible que nos palais nationaux puissent servir à des manifestations d'un caractère aussi nettement anti-artistique et anti-national.
Vous écrivez, Monsieur Canveller, dans votre ouvrage sur Juan Gris, que le peintre, par ses signes, tend à reproduire son émotion chez le spectateur, à lui faire lire son tableau. Comment expliquez-vous que bien des années se soient passées avant que l'on sache un peu mieux lire le cubisme, alors qu'on lisait très bien les écritures de Pompéi, de Rembrandt, de Courbet en leur temps?
Il y a eu, en effet, vous le remarquez très justement, une scission tout à fait regrettable entre le grand public et les vrais peintres. Cette scission a commencé au début du XIXe siècle. Et je crois bien qu'il faut en accuser l'école des Beaux-Arts officielle, enfin en France, la création de Napoléon. Cette école des Beaux-Arts ne continuait pas l'enseignement d'auparavant, où le peintre prenait un jeune peintre, des jeunes peintres, dans son atelier pour leur enseigner le rudiment, et non pas du tout pour les diriger vers une certaine forme de peinture qui leur permettait donc de se développer librement après. Au contraire, l'école des Beaux-Arts de Napoléon et celle de tous les autres pays européens s'est basée sur une certaine peinture italienne, peinture du XVIIe siècle, les Polonais notamment, cette peinture qu'on qualifie d'éclectique généralement, et n'en a pas démordu pendant presque un siècle. Ainsi, ce que voyaient les gens, non seulement dans les salons, qui à cette époque-là avaient une importance énorme, mais encore dans la vie courante, car les peintres moins doués, enfin, si l'on peut dire, de l'école des Beaux-Arts, c'est eux qui faisaient le calendrier des postes et télégraphes, les suppléments illustrés du Petit Journal et du Petit Parisien, toutes ces pseudo-peintures-là formaient le goût du public. Et c'est ainsi qu'à partir des impressionnistes, le grand public n'arrive plus à lire les œuvres des vrais peintres, car ne croyez pas Munich, il a commencé avec les cubistes. Si, comme je le soutiens, la peinture est une écriture, il est bien évident que toute écriture est une convention. Il faut accepter cette convention, apprendre cette écriture, et c'est ce qui se fait généralement par la simple habitude. Il est évident que les reproductions en couleur, qui sont si nombreuses maintenant, ont fait énormément pour apprendre aux gens à lire les tableaux des peintres de la fin du XIXe siècle, du commencement du XXe.
Entre-temps, la guerre a éclaté. Guerre franco-allemande, Canveller est allemand, au moment de la déclaration de guerre, il se trouve en Italie. Et il dit qu'il n'était pas question pour lui de porter les armes contre la France, de répondre à l'appel de la mobilisation allemande. Il va donc passer 4 ans en Suisse. Sa petite boutique de la rue Vignon est fermée. La guerre se termine. Il revient à Paris, très exactement le 22 février 1920. Et quand il remet les pieds dans la capitale, c'est pour apprendre que ses biens ont été séquestrés comme biens ennemis et qu'ils vont être mis en vente. Les ventes Canveller ont été une catastrophe d'abord pour les peintres et ensuite une catastrophe pour Canveller, car il a été dépossédé de tout son stock. Je voudrais vous demander, monsieur Canveller, de nous parler de ces ventes. Il y avait beaucoup de tableaux.
Il a été vendu 700 ou 800 tableaux, sans compter les dessins, tout ça. Or, aucun marché du monde n'est capable de résister à une pareille avalanche. Ce qui s'est produit, bien entendu, c'était qu'à partir de la première vente, les prix n'ont fait que baisser. Il y en a eu 5 en tout, dont une de mes biens privés et 4 de ce qui était, enfin, la galerie, si vous voulez.
Si vous aviez pu garder ces 800 tableaux pendant 40 ans,
oui.
Et si nous les vendions aujourd'hui, combien croyez-vous que cela représenterait? 2 milliards.
Beaucoup de milliards.
Beaucoup de milliards.
Beaucoup de milliards. Et sans les vendus très récemment, pour 60 millions, 70 millions, des prix comme ça. Bien entendu. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ce serait passé non plus. Entre mes mains, j'en aurais vendu une partie, j'en aurais acheté d'autres, et ainsi de suite. Enfin, les tableaux ne restent pas là, on ne les cache pas pour ne pas les vendre.
Mais alors, qui a acheté ces toiles? Comment cela s'est-il fait? Étiez-vous présent à ces ventes? Vous avez dû être
bouleversé. Je n'étais pas présent. J'allais aux expositions, mais je n'étais pas présent aux ventes. D'autre part, j'avais très peu d'argent à ma disposition à ce moment-là. C'était évidemment défendu que le propriétaire allemand rachète les toiles. Ceci n'aurait eu aucune importance, puisque n'importe lequel de mes amis pouvait les acheter. D'ailleurs, j'en ai fait acheter par des amis quelques-uns auxquels je tenais tout particulièrement. Je vais vous étonner. Vous vous demandiez si certains confrères n'avaient pas voulu ces ventes pour acheter bon marché. Aucun d'eux n'a acheté un tableau. Paul Rosenberg, qui achetait à Picasso depuis 1918 ou 19, surtout les tableaux classicistes de Picasso, n'a pas acheté un tableau, malgré qu'il soit parti pour rien. Léonce Rosenberg, lui, déjà à ce moment-là, se trouvait en difficulté financière et n'en a pas acheté non plus. Les gens qui ont acheté, savez-vous qui c'était? Eh bien, c'était surtout des jeunes littérateurs, des jeunes poètes. Éluard a acheté énormément, Breton a acheté, Tzara a acheté, Salacrou a acheté. Voilà les gens qui ont acheté.
Et voilà comment, sans le savoir, sans le vouloir surtout, Armand Salacrou, vous avez été un petit peu un profiteur de guerre, non?
J'ai acheté une toile de gris 150 francs. Et si j'avais eu 1500 francs, j'aurais acheté 10 toiles de gris.
Oui.
Quand j'achetais, moi, mes premiers tableaux cubistes, tous les gens de la génération de mon père se moquaient de moi. Maintenant, quand les gens viennent voir mes tableaux, ils disent « Ah, maintenant, je comprends ce que vous avez eu le nez fin. Vous avez gagné de l'argent avec vos tableaux. » Or, je ne les ai jamais achetés pour gagner de l'argent. Je les ai achetés parce que d'abord, c'était bon marché, car j'ai acheté mon premier Modigliani, enfin mon seul Modigliani, 20 francs. Autrement, je n'aurais pas pu l'acheter, je n'avais pas d'argent. Mais je l'ai acheté parce que je l'aimais. Je ne l'ai pas acheté en me disant « Dans 10 ans, ça vaudra tant. »
Voilà, je crois, une façon particulièrement saine de pratiquer et d'aimer la peinture. Et ce n'est pas Georges Besson qui me démentira. Je voudrais que nous revenions un peu en arrière, Georges Besson, parce que vous êtes non seulement le critique d'art que nous connaissons, mais l'aîné de Kahnweiler. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que vous n'ayez pas davantage été le compagnon de route de Kahnweiler après votre arrivée à Paris. Est-ce que vous pouvez évoquer quelques souvenirs de cette arrivée et de votre rencontre avec Kahnweiler?
Lorsque je suis arrivé à Paris en 1906, j'aimais déjà beaucoup la peinture et j'ai été, je crois, un des plus fidèles visiteurs de la galerie de la rue Vignon, sans jamais avoir de rapport avec Kahnweiler. J'étais beaucoup trop timide. J'ai fait sa connaissance après 1920 et je crois que nos relations sont devenues assez rapidement amicales parce que j'avais beaucoup d'admiration pour la dignité de la vie de Kahnweiler, pour son courage. J'aimais ce grand marchand qui était ennemi de tout faste, contrairement à beaucoup de ses collègues. Et j'aimais aussi le fait qu'il ne s'était pas dispersé dans le choix de ses peintres. J'aime son courage parce que, il me l'a dit souvent, et il vous l'a dit à vous, qu'il avait horreur de la facilité de la peinture abstraite, de la peinture qu'il considérait une peinture décorative. Qu'il avait horreur des gens qui prétendaient que la peinture n'était pas d'abord un métier. Il a eu le courage de ne pas accepter de se laisser décorer. Il a eu le courage de ne pas faire beaucoup d'expositions, en tout cas il ne faisait que des expositions des gens qu'il aimait. Et il a eu surtout le courage de ne pas se mettre à la mode, c'est-à-dire d'établir ces effroyables attrape-nigauds qui sont les cocktails, où le marchand a l'air de vouloir se payer un critique avec un verre de bonnet ou une coupe de champagne.
Ce que vous dites de Daniel-Henri Kahnweiler en fait un merle blanc, car est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes comme lui sur la place?
C'est plus qu'un merle blanc. Je prétends que dans cette effroyable profession qu'est la confrérie de marchands de tableaux, c'est vraiment le grand aristocrate. Aristocrate par sa culture et, comme je le disais tout à l'heure, par sa dignité. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir connu plus tôt Kahnweiler. Mais comme vous le savez, à partir de 1906-07, nos voies étaient parallèles. Je fréquentais des peintres qui n'allaient pas chez lui ou qui n'étaient pas de son écurie, comme on dit aujourd'hui. Je connaissais ces peintres aussi sans qu'ils soient mes familiers. Moi, j'étais l'ami de Bonnard, de Villard, de Roussel, de Voloton, de Marquet, de Matisse. Lui avait Derain, Vlaminck, etc. Mes amis littérateurs, c'était Mirbeau, c'était Léon Werth, c'était des gens de cette tendance, tandis que lui était l'ami d'Apollinaire, dont il a eu le courage de dire qu'il n'entendait pas grand-chose de la peinture. C'était des gens de cette tendance. Et vraiment, j'aurais pu m'enrichir beaucoup en fréquentant un homme comme Kahnweiler. C'est ce que je n'ai fait qu'à partir de 1920.
Comment expliquez-vous que Kahnweiler, dans la seconde après-guerre, n'ait pas ouvert davantage l'écran panoramique? C'est peut-être une question à côté, mais je suis frappé, moi, de la fidélité et en même temps de l'immobilisme de Kahnweiler.
On ne peut pas parler d'immobilisme, puisque Kahnweiler était l'homme qui avait des réactions d'homme sensible. La peinture le prenait aux tripes. Il est probable que beaucoup de peintres n'ont pas pris aux tripes. C'est un homme qui, contrairement à ses confrères qui disaient « la bonne peinture, c'est celle qui se vend », lui disait « la bonne peinture, c'est celle peut-être qui se vend difficilement ».
Oui, mais Georges Besson, voyons, depuis 1935 ou depuis 1940, des peintres sont nés.
Oui, et je crois même qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de peintres qui sont aussi importants que ceux qui sont arrivés à la notoriété entre 90 et 1905. Mais, qu'est-ce que vous voulez, Kahnweiler était peut-être beaucoup plus sévère que moi. Et il s'en est tenu un certain nombre de peintres. D'ailleurs, c'est ce qui fait mon admiration, en restant extrêmement libéral avec eux, en ne les embêtant pas quant à leur évolution. Je vais par exemple vous donner l'exemple de son ami André Masson, qui d'abord, peintre surréaliste, a donné les preuves de son rôle de militant pendant la guerre espagnole, a fait de magnifiques tableaux où on voyait des évêques guider les gens de la phalange vers les républicains pour les assassiner. Ensuite, il a fait de très grands paysages aux environs d'Aix, dont le Mistral est un des exemples. Ensuite, il a fait une peinture plus ou moins impressionniste avec des irisations qui, paraît-il, au dire de Kahnweiler, avaient révulsé Limbourg, ami de Masson, au point de le menacer de cesser toute relation avec lui. Enfin, de toute façon, dans toutes les circonstances, pour Masson comme pour tout le monde, et c'est très rare dans ce métier de marchand de tableaux, Kahnweiler n'a embêté personne, aucun de ses peintres.
À votre témoignage, Georges Besson, pardonnez-moi de vous interrompre, je voudrais ajouter celui d'André Masson. Je voudrais savoir, André Masson, ce que vous pouvez me dire de cette liberté que laisse Kahnweiler à ses peintres.
Eh bien, déjà, nous pouvons dire ceci. C'est que je sais bien que le moment où il a connu ma peinture, j'étais encore sous l'emprise du cubisme, en y introduisant des éléments dont Picasso disait « ce garçon nous prend nos formes, mais y introduit des sentiments que nous n'aurions jamais pensés », était déjà presque surréaliste. Mais enfin, j'étais encore quand même dans la discipline cubiste au point de vue formel. Et ce qui explique qu'il a accepté fort bien mon passage dans le surréalisme, considérant que je gardais un respect des valeurs plastiques, comme on dit à l'époque, qui n'a pas toujours été le cas de tous les surréalistes, comme vous le savez, n'est-ce pas ? Que Henri Kahnweiler ait eu un haut-le-corps devant le côté académique qu'a pris le surréalisme, comme vous savez, il y a plusieurs voies dans le surréalisme, et celle qui l'a emporté, même finalement, dans l'esprit public, c'est le chromo, n'est-ce pas ? Alors on peut pas demander à Kahnweiler, qui a porté les cubistes, qui étaient des artistes purs, d'aimer des gens qui faisaient du pittoresque freudien, avec des moyens académiques, c'est tout à fait normal.
Il n'y a pas eu de heurts. Je veux dire qu'à un moment donné, il n'a jamais discuté avec vous. Il ne vous a jamais dit « Ah, ça, non, je n'aime pas. »
Une chose que je crois unique, justement, dans le cas qui nous intéresse, c'est que voici une personne qui aide les peintres à devenir des peintres. Mieux que cela, il ne les critique jamais. Puisqu'il prend votre peinture et la confiance dans votre peinture jusqu'au jour où ça peut arriver, c'est arrivé je crois avec Derain par exemple, ou Vandongen, ils font tout à coup une volte-face, et on comprend qu'à ce moment-là, mais si ça restait dans le chemin qu'ils considéraient comme le chemin valable pour l'artiste, il n'y avait jamais de critique. Et quelquefois, il m'a dit, tu sais, j'aime moins telle période que tu as faite, mais maintenant, je la trouve qu'elle se situe très bien dans le développement de ton œuvre. Il faut t'attendre. Et là, par là, il montre une grande connaissance d'abord de la création artistique, qui est extraordinaire, n'est-ce pas ? Parce que même beaucoup de critiques n'en ont aucune idée. Et c'est donc qu'une chose peut très bien avoir l'air d'être en retrait dans l'œuvre d'un artiste et qui, au contraire, avec le temps, le recul devient importante. Il a donc toujours la question de patience, et je dirais de passion aussi, une passion patiente. Et ça, c'est évidemment une vertu extraordinaire.
Écoutez, André Masson, vous avez commencé le portrait de Kahnweiler, il faut le finir. Je voudrais que vous nous disiez quand et comment vous l'avez rencontré. Qui est Kahnweiler pour vous ? Qui est-ce ?
C'est d'abord un homme qui sait ce qu'est la peinture et qu'il a toujours su. C'est-à-dire que, avant d'être marchand de tableaux, il était amateur. Très jeune, il s'intéressait au mouvement moderne, et pour la peinture ancienne, sa culture était immense. Nous avons donc affaire, là, à quelque chose qui n'est pas ordinaire comme cas. Nous ne devons pas oublier que, par exemple, les Médicis étaient des marchands. Novalis, dans son grand roman Henri d'Ofterdingen, parle du commerce noble, et il a raison. Par exemple, il est évident que les marchands de tableaux qui font simplement de la spéculation sont indignes de nom de marchands de tableaux. C'est eux qui sont l'immense majorité, comme vous savez. Quand Henri Canveller était dans sa petite boutique de la rue Vignon, il est bien évident qu'il rencontrait une hostilité très marquée. On n'aimait pas ça. Et Canveller est arrivé à faire aimer ça. C'est donc, à mon avis, une œuvre créatrice, ça.
Est-ce que Canveller a été votre ami avant d'être votre marchand, ou votre marchand avant d'être votre ami?
Ça s'est passé ainsi. J'étais à Montmartre, végétant fort, et je connaissais Élie Lascaux, qui, lui, était en rapport avec Henri Canveller. En même temps, j'étais l'ami de Max Jacob, et eux deux sont décidés à dire à Canveller de venir voir mes tableaux. C'était dans une chambre d'hôtel, et je crois que c'est Lascaux, si je me souviens bien, qui les a mis dans son atelier pour les lui montrer. À la suite de la vue de ces tableaux, il s'est intéressé à moi, et quelques temps après, il m'offrait un contrat. Avant de connaître Henri Canveller, je végétais, ce qui veut dire que je ne mangeais pas tous les jours, vous comprenez. Et si Mac Jacob ne m'avait pas aidé à vivre à ce moment-là, par exemple, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Alors je faisais de petits métiers de temps en temps, et puis j'étais inscrit au chômage. Enfin, ça me permettait tout ça de faire de la peinture à peu près une fois par semaine, vous comprenez. C'était extrêmement difficile, je ne pouvais pas peindre d'une manière suivie. Après avoir été démobilisé, après une blessure et des longs séjours dans les hôpitaux, j'ai été blessé au chemin des dames, et puis je suis resté presque 2 ans encore dans l'armée, mais dans l'armée des éclopés, des malades, blessé et malade, même considéré un peu comme malade mental, parce que ça a été un peu traumatisé. Alors, je vivais une vie presque de vagabondage en sortant de cette guerre-là. Si Canveller n'était pas apparu, je ne sais pas ce que je serais devenu. Sans lui, je ne pouvais pas peindre, puisque je n'avais pas les moyens de le faire, je n'avais ni le temps, ni la possibilité même d'acheter des couleurs, sinon, je vous dis, au compte-gouttes. Et il m'a permis donc de travailler tous les jours, de faire la peinture tous les jours, et depuis, ça n'a pas cessé.
Il y a presque une contradiction dans l'attitude de Canveller devant les peintres et la peinture, parce que vous parliez de la liberté qu'il vous laissait. Cela ne signifie pas qu'il soit éclectique. Il laisse naturellement tous les peintres peindre comme ils veulent, mais il est très sévère, il est très dur pour certaines peintures, très dur.
Mais c'est nécessaire qu'il le soit, parce que vous pensez bien que, par exemple, l'abstraction est une chose que les cubistes ont quelquefois frôlé, mais n'ont jamais voulu passer de ce côté-là, n'est-ce pas? Comme me le disait Picasso, c'était trop facile. C'est-à-dire, l'obstacle étant la figuration. Il ne faut pas être esclave de la figuration, mais tomber dans l'abstraction, c'est tomber dans le décor. D'ailleurs, si Henri Canveller a été si sévère pour l'art abstrait, Picasso ne l'a pas été moins, et pas seulement Picasso, n'est-ce pas? Il faut penser, j'en ai parlé avec Matisse, qui lui aussi considérait que c'était un moyen d'en sortir sans trop y laisser de plumes. C'était, car on venait à l'opinion de Picasso, c'était trop facile de supprimer l'obstacle qu'est la figure. La difficulté, c'est d'accepter la figure et de s'en rendre maître. C'était l'avis de Giacometti aussi. Et après tout, Canveller avait raison, puisque cette resurgence de la peinture abstraite, à partir de 1945, par exemple, maintenant lasse tout le monde, n'est-ce pas? Même les amateurs se lassent. C'est un fait curieux, vous comprenez? On achète toujours de la peinture cubiste, on achète toujours de la peinture surréaliste même. Le surréalisme n'est pas mort du tout, c'est une horreur. Si l'abstraction avait raison, le cubisme avait tort.
Est-ce que vous trouvez qu'il a changé, Canveller, à part le poids des ans?
Non, vraiment, non, non. Et il est d'un seul métal. Alors, nous dirons une chose pour finir, c'est que, pour prendre ça de très haut, Qu'est-ce que c'est qu'un homme, sinon un créateur de valeur? De valeur. C'est-à-dire valoriser quelque chose. Voilà. Eh bien, tant qu'une chose n'est pas valorisée, elle n'existe pas. Justement, dans une époque où la rapidité des rapports est quelquefois annihilante, complètement annihilante, lui a une sagesse, je pourrais dire, des temps anciens. Et il sait que le blé ne lève pas tout de suite, il sait qu'il faut longtemps. Je ne suis pas le seul peintre qu'il a fallu montrer avec insistance pour qu'enfin on l'accepte, n'est-ce pas? Mon cas n'est pas unique, mais il est évident que pour une personne qui sert d'intermédiaire, il faut une patience, une bonne volonté, une ferveur absolument nécessaire.
Merci, André Masson. Georges Besson, vous qui n'êtes pas marchand de tableaux, au contraire.
J'ai failli devenir marchand de tableaux. En juin 1913, mon ami Charles Vildrac m'a écrit « Je viens de m'associer avec Marseille pour ouvrir une galerie de tableaux rue de Seine. Soyez le troisième larron, nous formons une magnifique association. » Alors je lui ai dit « J'aime trop la peinture pour jamais en vendre. »
Oui, on a dit que Canveller était un découvreur ou un accoucheur, dans le sens où il n'est pas responsable du cubisme, mais il est responsable de sa bonne oxygénation, par exemple. Mais le métier d'accoucheur n'est pas un métier qui se pratique uniquement avant la guerre de 14.
Ben, c'est que ses goûts étaient limités. Il se peut très bien qu'il n'aimait pas Bonnard, il se peut très bien qu'il aimait moins Villard. Il aurait pu peut-être s'intéresser à Pignon ou à Gruber, ou plus récemment encore à des peintres importants comme Le Sieur. Mais ça ne répondait peut-être pas non plus à ses goûts.
Les marchands, c'est un bien ou c'est un mal?
Au début de la carrière, beaucoup de peintres ont intérêt à avoir un marchand. Mais tout dépend de la qualité du marchand. Tout le monde n'est pas Canveller ou Durand-Ruel ou Druet à un certain moment.
Oui, mais quand vous dites tout le monde n'est pas Durand-Ruel ou Canveller, on a l'impression qu'il n'y a que ces grands marchands qui trouvent grâce à vos yeux.
Il y a, je crois, à Paris, en ce moment, 400 marchands de tableaux, et tous les jours, il y en a de nouveau, surtout des femmes. Parmi ces 400, moi, j'en connais 3, 4 ou 5 qui consentent à vendre la peinture dite figurative, 300 qui vendent n'importe quoi, et surtout de la peinture abstraite, et puis le reste, ben, sont des gens qui ont une galerie. Ils l'ont ouverte un beau jour, en la louant quinzaine par quinzaine, entre 300, 500, 800 000 francs la quinzaine.
Que doit être pour un peintre le marchand?
Il lui trouve d'abord une clientèle, il lui évite les contacts souvent pénibles avec le client qui marchande, et puis il lui assure souvent une mensualité. C'est très important, surtout quand on a affaire à un marchand qui ne vous impose pas chaque mois de lui livrer une quantité de tableaux, ou qui ne lui impose pas de faire la peinture qui se vend, alors que celle que tu peins se vend un peu moins ou se vendra plus lentement. Il y a beaucoup de peintres qui sont pires que les marchands les plus effroyables. On me parlait dernièrement de ce qui s'était passé en Amérique avec un peintre très connu. Un amateur vient le voir, voit un tableau, lui dit « Je voudrais bien vous l'acheter, quel est le prix ?» Et le peintre lui dit « Oh, moi, je suis un artiste, je me fous complètement de l'argent, dressez-vous à ma femme. » Alors, la femme fixe des prix au bonhomme, qui, lui, était derrière sa femme, et devant la glace, faisait de grands gestes comme ça avec ses doigts pour indiquer la quantité de dizaines ou de milliers de dollars qu'il fallait demander.
Malheureusement, la glace réfléchissait la mimique du mari, hein?
Évidemment. Je crois que la plupart des peintres vont maintenant vers ce qui se vend, c'est-à-dire vers la peinture abstraite, vers la peinture académique qui est soutenue par le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois que la plupart des critiques d'art d'aujourd'hui s'imaginent, à part deux ou trois, que la peinture française a commencé à la Libération. Alors, ils sont excités sur la peinture abstraite et rien n'est plus facile que de publier des tas d'articles, des tas de revues, de journaux et de livres sur le néant. Éliforme a toujours dit qu'il y avait 200, peut-être 300 personnes en France qui savaient que c'était la peinture. Et depuis 10 ans, nous sommes aperçus qu'il y avait 2 millions de Français qui en achetaient. Non seulement parce qu'ils aiment la peinture, comme vous l'aimez, comme je l'aime, ou comme l'aimait Canveller, ou comme l'aime Canveller, mais tout simplement parce que c'est une valeur de bourse. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'ils se sont cassés la gueule. Quand ils veulent revendre un peu de la peinture qu'ils ont achetée depuis 10 ans, ils s'aperçoivent qu'ils y trouvent le prix du cadre.
Il faudrait peut-être montrer qu'il est anti-bourse, Canveller. que pour lui, la question de spéculation ne joue pas. Il dit souvent, pour qu'un pain se vende cher, il faut qu'il ait commencé par se vendre bon marché.
Mais évidemment, il faut ajouter à tout ce que je disais du courage de Canveiller, c'est qu'il a dit que la peinture était trop chère et que la peinture ne pouvait pas être une valeur de bourse. Il est un peu comme Bonnard, avec lequel je crois qu'il n'a pas beaucoup de relations. Bonnard qui me disait en 1930, la peinture de n'importe qui ne doit pas valoir plus de 300 francs.
Passons à un autre sujet. Besson, comme Masson, nous ont dit la dureté, la sévérité de Canveiller pour la peinture abstraite. Mais tout ça a été dit d'une manière feutrée. Et même quand Canveiller parle de la peinture abstraite, comme il l'a fait dans ses entretiens à la radio, il en parle toujours tranquillement. Chose curieuse, j'ai demandé à Pierre Assaut de lire un texte de Canveiller sur la peinture abstraite, et tout ça devient terriblement violent. Parce que c'est ainsi qu'un homme qui n'est pas de l'équipe de ses peintres reçoit un texte, un écrit de Canveiller, la peinture abstraite.
Je veux parler de la peinture abstraite. J'ai toujours envie d'écrire la PPA, la peinture prétendue abstraite, comme les catholiques du XVIe, du XVIIe siècle écrivaient la RPR, la religion prétendument réformée. Le malentendu auquel elle doit sa naissance se perçoit déjà dans les premiers écrits sortis du milieu cubiste. Apollinaire, lui aussi, se laisse aller à parler de peinture pure, de peinture abstraite, selon les slogans des cafés hantés par les suiveurs des premiers cubistes. Comme s'il pouvait y avoir quelque chose de semblable. Qu'est-ce donc que la peinture d'un Mondrian, pour ne nommer qu'un des chefs de cette école? C'est l'architecture plate et colorée de Gris, imitée mais non comprise. Gris a dit lui-même très justement que les tableaux de ses peintres n'était pas terminé. Autrement dit, ce ne sont même pas des tableaux. Ce qui fait la grandeur et la nouveauté de l'architecture de Gris, c'est que, mystérieusement liée aux émotions éprouvées par le peintre, elle aboutit à les faire partager aux spectateurs, en faisant apparaître les objets qui en sont le support. Elle remplit ainsi le rôle biologique de la peinture, qui est la création du monde extérieur des hommes. Non seulement le cubisme a recréé l'univers visuel, mais par ses sujets, il a fait voir, fait aimer tant d'objets simples et modestes qui échappaient au regard par leur existence effacée, ustensiles de cuisine et de ménage, instruments de musique, etc., etc. C'est cette interdépendance éternelle de la peinture et du monde extérieur, raison d'être même de la peinture, qui reste incomprise des abstraits. Il ne crée pas une écriture. Les lignes qui s'assemblent chez eux en forme plus ou moins rigide ne parviennent pas à leur vrai but, tournent court, car les formes ainsi obtenues ne signifient rien. Ce ne sont pas des emblèmes, mais des formes dénuées de sens. C'est que ces pseudo-peintres n'ont rien à dire, n'ont pas de message à transmettre, pas d'émotions vécues à faire durer. La pseudo-peinture d'un Mondrian, inachevé parce que ne pouvant l'être, ne parvient pas à être peinture, c'est-à-dire écriture. Elle s'arrête à un stade préliminaire qui est en fait une sorte de décoration. Elle n'atteint pas au beau, mais reste confinée dans l'agréable. Elle est hédoniste, en dosant ses proportions, ses couleurs, pour plaire aux spectateurs. Elle n'a pas d'action, pas de rayonnement, n'est que surface colorée, sans aucun au-delà. De vagues spéculations pseudo-pythagoriciennes ne changeront rien à cette évidence. Cette tentative, enfin, est d'autant plus artificielle qu'elle n'a aucun fondement. Elle ne part pas de l'émotion vécue, comme la peinture, mais elle n'est pas non plus, comme le vrai ornement, ou bien stylisation, ou bien emblème figé, ayant perdu son sens.
C'est un fragment d'un article de Daniel Henri Canveiller sur la peinture abstraite que Pierre Assaut vient de vous lire avec quelques passions. Nous pourrions convoquer à ce micro des dizaines et des dizaines d'amis, peintres, poètes, écrivains, sculpteurs de Canveiller. Le temps nous manque, nous avons préféré choisir un petit texte de son vieil et grand ami Raymond Queneau, un petit texte écrit par Queneau pour l'anniversaire de Canveiller, et qui s'appelle « Façon de parler », qui est une façon comme une autre de le saluer.
Mélanie Pige se promenait le long de la Seine, un livre ancien sous le bras, lorsqu'il rencontra Aristénète, qui se promenait le long de la Seine, un livre ancien sous le bras.
L'objet que tu tiens serré aussi précieusement sous ton bras, cher Aristénète, ne serait-ce pas un ouvrage consacré à l'étymologie ?
Nenni, cher Mélanie Pige.
Eh bien, celui que je transporte sous mon aisselle en est un. Mais il s'est refusé à me donner la réponse à la question que je lui posais.
Et quelle était cette question, cher Mélanie Pige ?
Dis-moi, cher Aristénète, d'où vient l'expression « five aux cloques » ? Je sais qu'elle concerne l'heure, mais quelle en est l'origine ? J'avoue ne pas bien la voir.
Quelle curiosité d'esprit tu montres, oh Mélanie Pige, et quel flair, ajouterai-je, en me posant pareille question. Je me réjouis d'y pouvoir répondre afin de te prouver que, dans le domaine des sciences langagières, je suis à nul autre pareil.
Qui jamais le contesta, cher Aristénète ?
Personne, en effet. Cette expression, nous allons en chercher des origines profondes dans le tout tuf, comme aurait dit l'Irlandais, des activités inconscientes, proliératrices et autotrophiques du logos.
Aha.
Avant cette descente aux enfers, je préparerai le terrain par quelques travaux plus superficiels, en me contentant de n'user que des ressources de la simple analogie. N'y a-t-il pas quelques ressemblances entre l'expression qui te préoccupe, cher Mélanie Pige, et celle-ci ? 5 années aux cerises.
S'il y a une ressemblance, cher Aristénète, je dois reconnaître que je ne la vois pas.
Vraiment ?
Vraiment.
Fronce alors les sourcils et tâche de voir plus loin que le bout de ton nez.
Je m'efforce encore plus et ne vois toujours rien.
Concentre-toi. Concentrons-nous sur l'expression 5 ans aux cerises.
Alors là, cher et grand Aristénète, je te prie de bien vouloir et de vouloir bien excuser mon émotion, mais je me trouve...
Où te trouves-tu ?
Dans la triste obligation de te contredire.
Aurais-je dit, moins cher Mélanie Pige, aurais-je dit quelques conneries ?
Non, certes, cher et grand Aristénète, et jamais je n'oserais te voltiger dans les plumes avec les ergots de la contradiction, mais vois-tu...
Que verrais-je ?
Tu me proposas de concentrer nos intelligences. La mienne qui est gracile et la tienne qui est sublime. De les concentrer, dis-je, sur l'expression préalable, 5 années aux cerises. Et voilà, si j'ai bien entendu, que tu me veux découvrir la signification de celle-ci, 6 ans aux cerises, qui est déjà tout autre. N'y a-t-il pas là quelque anamorphose ? Car ainsi que tu me le révèles à toi-même un jour que nous nous promenions le long de la Seine, un livre ancien sous le bras, il y a 1000 nuances qui diffèrent d'un mot à l'autre.
Oh, mon pauvre Mélanopis, que tu montres bien là ta débilité encore grande dans le maniement de ces questions controversées. D'emblée, tu te plonges dans le marasme sémantique, structural et verruqueux du discontinu. Ne comprends-tu pas, et ne comprends-tu pas donc, et ne comprends-donc pas-tu que je passais ainsi continuement et sans secousse, d'années à ans, et dans à l'xième zéro qui se découvre dans toute sa nudité dans l'expression 5 aux cerises.
Ah, mais il fallait prévenir, cher Aristénète, car tu traverses le lexique avec la prestesse d'une fusée interstellaire, en véritable logonaute que tu es.
Merci de nouveau, très cher Mélanie Pige. Je marcherai donc à tes côtés, de ton pas piéton.
Merci, cher et grand Aristénète.
De rien. J'en reviens donc à mes 5 aux cerises. Pour qui a quelque intuition de ces choses ?
Es-tu là, cher Aristénète ?
Il faut tout d'abord déceler l'ambiguïté de cette drupe qui, d'une part, se présente dans une aura candide et printanière, et de l'autre, comme synonyme de guigne, donc de guignon, ergo de malchance, d'où le passage peu trop aïque aux cloques, lesquelles possèdent la même ambiguïté puisque les cloques désignent aussi bien les bienfaisants effets des bains de soleil que les malfaisants de la maladie qui s'attaque aux feuilles de pêcher et que l'ordure dont on débarrasse le blé par le nettoyage. Tel est finalement le sens de l'expression « five o'clock » dont tu t'inquiétais tout à l'heure.
Oui, oui, mais « five », cher Aristénète.
À cause du tunnel sous la Manche, voyons.
Oh, merci, merci, cher et grand Aristénète. Tout cela est maintenant lumineux, et comme 5 heures sonnent au beffroi de Sainte-Clotilde, me permets-tu de t'offrir une tasse de thé ?
Lait ? Au citron.
je m'aperçois que j'ai complètement passé sous silence une des activités les plus riches et les plus passionnantes de Canveller, l'édition. Canveller a publié les premiers textes d'Apollinaire, de Max Jacob, de Malraux, de Salacrou, de Gertrude Stein, de Georges Bataille, de Michel Léris et de Georges Limbourg. Avant qu'ils n'aient été publiés par lui, ces hommes n'avaient jamais vu leur nom sur un livre. Il a publié les premiers ouvrages illustrés par Derain, Picasso, Vlaminck, Suzanne Roger, Jean Gris, Eugène de Kermadec, André Masson. Je voudrais, monsieur Jean Hugues, vous qui êtes libraire, directeur d'une galerie d'art, éditeur, que vous nous disiez où en était l'édition en 1909.
Il y a toujours eu en France et à Paris une tradition d'édition dite de luxe, et Canveller, en un sens, n'a fait que la continuer, mais en fait, il l'a renouvelée depuis la période romantique. Il y a ce qu'on appelle le livre de peintre, c'est-à-dire le livre illustré de gravures originales par les peintres. Mais jusqu'à Vollard, qui est contemporain de Canveller et qui édite des livres illustrés par les grands artistes aussi, les textes sont généralement des textes classiques et qui ne paraissent donc pas pour la première fois dans ces éditions. Canveller, au contraire, veut renouveler la sensibilité de son temps en demandant aux artistes de travailler auprès des écrivains contemporains. Et ça, c'est la grande nouveauté. En 1909, Canveller a 24 ans, Picasso a le même âge, et les auteurs qui vont être édités dans sa maison, qu'il s'agisse d'Apollinaire, qu'il s'agisse de Reverdy, qu'il s'agisse
de Max
Jacob, sont tous de la même génération, ils sont tous aussi jeunes. Ils ne vont donc pas s'encombrer des traditions. Pour autant, ils vont quand même travailler dans le sens de ce beau livre. Et Apollinaire, le premier, qui est érudit, qui fréquente beaucoup la Bibliothèque nationale, sait ce qu'est la bibliophilie. Et lorsque son livre va paraître, en 1909, il publiera, à la demande de Canveller, une sorte de bulletin dans lequel il fera connaître l'esprit de son livre. Et il prendra en référence les éditions anciennes, les éditions du XVe siècle, avec gravure sur bois. Il dit qu'il veut retrouver l'esprit de ce temps. Mais alors, si on est dans une tradition ancienne, en même temps, on veut être contre un livre brillant, un livre parisien qui a beaucoup d'apparat, qui est même luxueux. Alors, Canveller et ses artistes et écrivains vont aller vers une certaine rigueur, une certaine sobriété. D'apparence, leurs éditions sont modestes, contrairement à une certaine tendance. Si l'on prend les livres de Canveller entre les mains, depuis 1909 jusqu'à nos jours, on sera frappé par la modestie de ses plaquettes. La typographie n'est pas recherchée dans le désir de paraître. Les gravures sont simples, le papier est de belle qualité, mais il n'y a pas une volonté de faire beau. Et ça, c'est l'état d'esprit de ces jeunes gens, si je puis dire, à cette époque-là. Et dans cette, disons, humilité, il y a la marque de leur volonté de renouveler. Et à partir de 1909, donc, Canveller va réunir les différents artistes de sa galerie et leurs amis, les jeunes poètes, qui sont tous les plus grands de leur époque. Et ils vont faire chaque fois un livre qui sera en édition originale, c'est-à-dire dont le texte des poèmes, le plus souvent, paraissent pour la première fois, et dont les gravures sont spécialement faites pour accompagner ces textes. Comme ces livres ont un aspect modeste et que, d'autre part, les auteurs et les illustrateurs ne sont pas connus, ils ne rencontrent pas beaucoup de succès. Pour en revenir à ses premiers livres, c'est-à-dire « Un chanteur pourrissant » et « Les Max Jacob » illustrés par Picasso, lorsqu'il y a eu le fameux séquestre et les ventes de Canveller en 21, 22 et 23, on verra à l'hôtel des ventes des lots de volumes de Canveller, les trois quarts environ des tirages, n'est-ce pas, sont invendus. L'édition n'est pas dans une galerie le secteur qui rapporte, pour employer un langage d'économiste, la noblesse d'une galerie réside peut-être dans l'édition, car c'est là une tâche qui réclame beaucoup de soins, beaucoup d'amour et un désir de ne pas paraître. Et je crois que Kahnweiler, en montrant qu'une grande galerie devait éditer les gravures de ses artistes et par là même donner une possibilité aux poètes contemporains d'être lus et de pénétrer dans d'autres milieux, cette attitude de Kahnweiler est une chose tout à fait merveilleuse, afin dont on ne le félicitera et ne le remerciera jamais assez. Il a permis à des générations de peintres et de poètes d'aller ensemble, de marcher ensemble. Kahnweiler, c'est l'homme dans ses domaines du commerce de l'art, de l'édition, qui a su créer une sorte de chaleur telle entre les hommes qu'ils ont pu vivre d'une façon plus heureuse, disons, plus efficace. Et Kahnweiler a développé sans arrêt autour de lui ce climat d'amitié et d'estime entre les individus qui ne doit pas disparaître, bien au contraire.
C'est probablement sous ce climat que s'est décidée l'édition de la première pièce d'Armand Salacrou, Le casseur d'assiettes. Je trouve que nous avons trop parler de peinture, il est tellement difficile de parler peinture à la radio. La peinture, c'est le contraire de la radio. Essayons, en diffusant un fragment, c'est le cas de le dire, de ce casseur d'assiettes, de reconstituer une partie de l'atmosphère qui devait être celle des lectures faites le dimanche après-midi dans la petite maison de Boulogne où Kahnweiler recevait ses amis et ses peintres. Alors, rêvons un musical, ou plus exactement les coulisses d'un musical, ou peut-être d'un cirque, plutôt d'un musical. Il y a la foule, le public, les jeunes filles, les acteurs, le directeur que l'on cherche, et puis un jeune homme qui arrive, qui veut parler avec le directeur.
S'il vous plaît.
Hein? Quoi? Que veut ce monsieur?
Parlez au directeur.
Qui est-ce? Il a un mot de recommandation?
Un nom de Dieu, personne sur mon plateau, personne! L'ai-je dit, oui? Alors, c'est comme ça qu'on obéit? Vous vous en foutez? Allez, faut circuler, vous.
Écoutez, monsieur.
Pas le temps!
Comme un pou sur un crâne chauve, l'occasion de faire le bien est rare. Hein? Rare plus encore que la bonté. Et lorsqu'on l'a trouvé, on doit trouver aussi le temps d'accomplir son destin.
Mais que me raconte ce vicaire décoiffé?
Mais,
hein? Taisez-vous.
J'ai peur, ou comme j'ai peur.
Ben enfin, expliquez-vous.
Il me semble ne plus savoir. Ma volonté court dans ma tête sans rattraper le souvenir. Je me sens retenu ici, pourtant. Mais comme l'homme est retenu sur Terre avec la même violence et la même incertitude quant à l'utilité de ma présence.
Oh, Adolphe le bel, Adolphe s'ennuie.
Oh, je peux oublier. Je suis indigne.
Mais expliquez-vous.
Croyez-vous qu'on puisse expliquer ainsi le mystère d'une vie en trois mots? Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, ou ainsi qu'on répète, je vous aime, avec la même facilité.
Vous attendez une de ces filles?
Oh non.
La diseuse, peut-être?
Oh non.
Oh, je sais ce que c'est, moi, le confesseur de ce sanctuaire. Une femme vous attire ici?
Ma vie n'est plus si vulgaire. Et si les femmes m'intimident encore, c'est que je suis d'un naturel timide.
Oh, peut-on vivre sans femme? Elle nous entoure, nous enveloppe.
L'air aussi, mais je respire sans y prendre garde.
Que désirez-vous donc?
Vous le savez bien.
Je le sais.
Oui.
Je ne me sens pas d'humeur à jouer au rébus.
Mon petit chat qui parle.
Quoi?
Le petit chat divin. Mon petit chat que vous allez torturer. Rendez-le moi.
Quel petit chat?
C'est étonnant comme vous ressemblez à mon oncle Marcel.
Je m'appelle Marcel.
Oh, mais je comprends maintenant.
Et voici une heure.
Taisez-vous.
Mon bon monsieur Marcel.
Oui.
Ayez pitié.
Hein? Pitié, mais de qui?
De moi. Il est prisonnier ici. Et monte dans mon cœur le plus gros chagrin de ma vie.
Mais enfin, de quel chat parlez-vous?
Et pas un seul vrai souvenir. Tous les horizons flottent. Le bonheur d'un côté, le malheur de l'autre. À quel moment précis a-t-on volé, mon doux ami? Je sais que j'étais heureux et que je souffre.
Mais qui nous a trahis? Judas. Judas, où caches-tu tes 30 deniers? Judas, tout ce malheur pour 30 deniers.
Qui donc vient de ricaner? 30 deniers valaient tout de même 300 as.
C'est vrai. Judas n'était pas si bête.
Ah non, ce jeune homme est fou.
Le petit chat qui parle souffrira inutilement dans un music hall. On ne livre pas un être si rare à la stupidité d'un tel public.
Respectez les gens qui me nourrissent.
Ils tueront, mon ami.
Respectez cette foule. Elle m'entretient. Je la défends. Encore. Respectez ces gens-là. Et là, où allez-vous?
Je vais crier au feu, au feu.
Jeune homme.
Histoire de vous montrer comme ils viendront l'éteindre.
Mais il est fou.
Un fou. En vérité, un fou. Quelle aubaine! Régisseur, j'adore les fous. Lorsque j'étais journaliste, car je tins la rubrique des arts dans un quotidien, je collectionnais toutes les lettres des déséquilibrés adressées à la rédaction. On se lasse de tout, même d'apprendre. Et depuis, je suis devenu l'idole du public. Car, régisseur, vous avez notifié, j'espère, au directeur que je suis devenu l'idole du public. Mais ma passion pour les idiots reste aussi intense. Qu'affirmez-vous, mon bon ami?
C'est effroyable. Je dois toujours recommencer. Et c'est le commencement qui est impossible. Où commence le cercle? Ma vie est un cercle qui m'étouffe. Et dans cette vie toute de solitude, je ne me suis jamais senti aussi seul que ce soir, ici. Votre hostilité sourde à tous.
Caractéristique du fou, la persécution. Oh, je les connais. Ils se croient persécutés. Plus intéressants, les fous, tous les mêmes. Mais pour mon renouvellement de contrat, je tiens à voir le directeur.
Vous connaissez le directeur? Oh, conduisez-moi jusqu'à lui, mon bon monsieur à perruque.
Oh, votre stupidité est totale. Vous me comprenez? Totale.
Mais il ne cesse de réclamer une entrevue avec le directeur.
Caractéristique du fou, l'idée fixe. Oh, je les connais. Il a son idée fixe. Plus intéressant les fous, tous les mêmes. Mais je me rends chez le directeur. Je tiens à lui notifier moi-même que je suis l'idole du public. Venez, mes chéris.
C'est ça, moins fort.
Mon petit chat diva, ils ont entendu ta voix sans s'étonner au pied de ce grand mur sale. Dans la chambre tranquille où tu vivais, tu me parlais. Frémissement de l'herbe à l'eau. Je t'écoutais. Vous dansiez en rond, vieux, savant et petite fille folle. Je t'écoutais. Et le soleil allait déjà mourir.
Monsieur Armand Salacrou, vous conclurez deux fois cette émission sur le grand marchand de tableaux du XXe siècle.
Canveller n'a jamais été dans le fond un marchand de tableaux.
C'est vrai, le mot marchand de tableaux est inexact. Trouvez-moi un autre.
Amateur de peinture. Canveller était un homme passionné par la peinture cubiste, et je crois d'ailleurs qu'il restera lié au cubisme, non seulement à cause de son influence, parce qu'il a diffusé, si vous voulez, les tableaux cubistes à ce moment-là, mais surtout parce qu'il a écrit le seul ouvrage valable sur le cubisme à propos de la vie d'un homme qu'il adorait, qui était un de ses peintres, comme on dit, Juan Gris. Il a écrit un livre sur Juan Gris qui est à la fois une biographie et à la fois une explication du cubisme, qui est une œuvre magistrale.
Juan Gris, qui était peut-être alors lui votre ami, puisqu'il vous a illustré.
J'étais très très jeune, enfin j'avais 21 ans, 22 ans, et j'avais connu par un homme qui m'a depuis devenu un peintre, mais qui à ce moment-là, je ne pensais pas qu'il serait peut-être un peintre, qui s'appelait Dubuffet. J'avais connu André Masson, qui est devenu mon ami. André Masson habitait à ce moment-là rue Blomet, moi j'habitais à Vaugirard, et tous les jours, vers 5 heures, nous réunissions des copains, enfin, l'amitié des gens de 20 ans, vous savez, il y avait Michel Léris, il y avait Malraux, il y avait un voisin qui s'appelait Jean Miro, quelquefois Hemingway venait nous voir, et il nous semblait étonnant parce que il n'avait pas encore écrit à notre connaissance, mais il était étonnant comme homme, sa vie était étonnante. Et puis il revenait là, Canneveller, qui depuis quelques mois s'intéressait à André Masson. Il faut dire que Canneveller venait d'être vendu comme allemand, parce qu'il avait acheté avant la guerre les tableaux de Picasso, les tableaux de Braque. Il avait découvert deux écrivains qui s'appelaient Marc Jacob et qui s'appelaient Apollinaire, ce qui était tout de même pas mal. Et il avait épousé une Française. Il a refusé pour des raisons, je crois, sentimentales et aussi des raisons philosophiques de faire la guerre. Il s'est réfugié en Suisse et à son tour, on a vendu toute sa collection. Il a été obligé de racheter ses meubles. Bien. Il avait à ce moment-là 40 ans ou 42 ans. Il venait souvent chez Masson et il demandait « Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Que faites-vous ?» Moi, je lui disais « Moi, ça ne vous intéresse pas, je fais du théâtre. »« Si, ça m'amuserait, je voudrais bien lire votre pièce. » Alors, j'avais une pièce et je n'avais qu'un exemplaire de cette pièce et j'avais remis au concierge de l'atelier, pour Dulin. Et deux ou trois fois, il me dit « Mais alors, votre pièce, quand me la donnerez-vous à lire ?» Je dis « Ben oui, ça m'ennuyait, j'attendais la réponse de Dulin. » Enfin, j'aimais de plus en plus Canneveller, et je suis retourné alors chez Dulin, reprendre, que je ne connaissais pas, reprendre ma pièce. Et j'ai vu écrit sur le manuscrit « Très intéressant à relire ». Après, j'ai su que c'était l'écriture de Dulin. Alors, j'ai donc pris ce manuscrit, je l'ai donné à Canneveller, et j'ai eu la chance, il a édité sept personnes, édité parmi ces sept personnes. Il y avait Tristan Tzara, il y avait Artaud, il y avait Malraux, il y avait Léris, il y avait Limbourg, il y avait Robert Desnos, et
oui,
puis
mais
moi.
Comment m'expliquez-vous cet attrait, cette intelligence d'un Canneveller, tout de même homme des arts plastiques, pour les poètes?
Je crois que ça ne peut s'expliquer que par l'amour. Vous savez comment c'est venu, cette histoire. C'est exactement la rencontre. Ça aurait pu être s'il avait été Don Juan, ça aurait été la rencontre d'une femme. Mais son Don Juanisme à lui, c'est la peinture. Seulement, il était très fidèle à ses amours.
Mais c'est même assez rare, cette polyvalence.
J'ai connu deux hommes. Enfin, dans ma vie, était marquée par quatre hommes, dont deux sont morts. C'est Lugnepo et Charles Dulin. Mais parmi les vivants, les deux hommes qui ont eu le plus d'importance, qui me semblent à moi des, non pas des génies d'écriture, mais des génies, mais des génies de la vie, c'est Gaston Gallimard et c'est Daniel Canneveller. Le même amour de Gaston pour certains manuscrits autrefois, je l'ai retrouvé chez Canneveller, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement pour vendre des livres, c'est parce qu'ils aimaient. Je me souviens, si vous voulez, pour expliquer ce que je veux dire, Lugnepo me disait « Je ne peux pas m'endormir un soir sans lire un manuscrit nouveau ».
Alors, il y a la volonté de marier aussi un peintre, et il y a la volonté de l'osmose entre peintre et poète.
Vous parlez en ce moment, alors, exactement...
De l'éditeur.
De l'éditeur, oui. Alors, c'est autre chose. Il avait d'abord fait, avant la guerre, l'édition de L'Enchanteur pourrissant, et puis un autre d'Apolline.
Les Matorelles
de Max, bon. Il les avait donnés à illustrer à ses peintres, comme on dit. Quand il a recommencé à zéro, après la guerre de 18, il a donc pris ces jeunes écrivains qu'il connaissait parce qu'il aimait cette agitation intellectuelle de la nouvelle génération. Et il demandait, Léris a été illustré, je crois, par Masson, Limbourg a été illustré par Masson, Tzara a été illustré par Juan Gris. Moi, j'ai eu aussi la chance d'être illustré par Juan Gris, qui était beaucoup plus vieux que nous, il avait 10 ans de plus que nous, il avait 30 ans, et qui est devenu pendant les quelques années qu'il lui restait à vivre, qui est devenu mon ami, sa femme et lui étaient l'ami de ma femme et moi, nous étions très 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 liés, et sa mort était atroce pour nous, enfin.
Oui, mais justement, vous ne pensez pas qu'il déborde toujours son territoire, comme on dit des oiseaux, Canneveller, qu'il refuse de se laisser enfermer dans ce
Si je voulais le mettre dans une cage, je le mettrais dans la cage des philosophes. C'est avant tout un philosophe. C'est un Kantien. C'est avant tout un philosophe qui inconsciemment et ou consciemment, quelquefois d'ailleurs, décide, même dans les choses de sa vie les plus importantes, pour des raisons philosophiques. Par exemple, en 14-18, il n'a pas voulu se battre et il a été vendu là comme allemand. Il est israélite, d'origine israélite, et pendant l'occupation, il n'a pas voulu quitter la France. Tout le monde, on l'a dit, mais enfin, c'est idiot de vous faire de... Non, tant pis, il arrivera ce qu'il arrivera. Il s'est mis dans un village, mais il n'a jamais voulu quitter la France. Et je dois dire, alors que là, il a été vendu comme juif. Si bien qu'il a été vendu deux fois. Mais tout ça sans jamais l'ombre d'un regret. C'est un homme universel. C'est un musicien. Il lit l'allemand, l'anglais, le français. Enfin, c'est un grand philosophe. Et c'est avant tout un philosophe. Et il mène une vie de philosophe. C'est un sage. Mais c'est un homme dont la vie est transparente. Enfin, vous comprenez. Et qui est profondément bon. Je ne peux pas en parler parce que j'en dirais trop de bien. Je l'aime. Enfin, c'est un homme que je respecte et que j'aime.
Dans la série « Un homme, une œuvre » réalisée par Claude Mourtet, vous venez d'entendre Daniel-Henri Canveller par Francis Crémieux, avec la participation de messieurs Georges Besson, André Masson, Jean Hugues, Armand Salacroute de l'Académie Goncourt et Daniel-Henri Canveller. Façon de parler de Raymond Queneau était interprétée par Pierre Assaut, Pierre Détaille et Bernard Lavalette. Le texte de Daniel-Henri Canveller était lu par Pierre Assaut. Vous avez entendu également un extrait du « Casseur d'assiettes » d'Armand Salacroux avec Pierre Constant, Jean-Jacques Stine et Pierre Mira. La séquence de la Chambre des députés était réalisée par René Jantet avec Jean-Roger Cossimon. Musique d'Éric Satie et de Henri Sauguet.
C'était « Un homme, une œuvre » Daniel-Henri Canveller par Francis Crémieux, une émission diffusée la première fois le 20 mai 1967 sur France Culture.